Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'émission d'après-course du Bulletin GP où on va revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 ou devrais-je dire probablement une des meilleures courses, définitivement top 10 des plus belles courses que j'ai vues à vie. Et pour en parler, j'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Comment te sens-tu après un Grand Prix aussi fou comme celui-là?
Très bien. Écoute, comment ne pas être heureux en voyant ce magnifique spectacle du début jusqu'à la fin. Ça a été un spectacle enlevant qui a donné sûrement, et j'espère, le goût à certaines personnes de suivre la Formule 1. Là, parce que si tu ouvrais ta télévision pour une première fois et que tu as regardé le spectacle à la fin entre Perez, Hamilton, Leclerc et même Sainz au tout début, c'est vrai, tu t'en ressors vraiment pas déçu.
Ah oui, vraiment. Et puis, j'ai même l'impression que, comme je disais, c'est peut-être déjà la meilleure course de la saison. Oui. Sans aucun doute. Et en plus de ça, je crois que dans l'ère des moteurs hybrides, ça rentre définitivement dans le top 10, voire même top 5, si on peut dire, des plus belles courses de l'histoire. Mais évidemment, il y a place à débat, mais ce Grand Prix a définitivement tout pour être un classique dans l'histoire de la Formule 1.
Effectivement.
Donc, je vais vous donner, en attendant que j'aille chercher les résultats, je peux vous dire déjà d'emblée qu'on a finalement un nouveau vainqueur en Formule 1 et c'est ni l'autre que Carlos Sainz. Malheureusement, je ne peux pas jouer Smooth Operator pour des questions de droit d'auteur, mais je crois que ça a dû chanter ça en tabarnak. Ou peut-être pas, parce que je crois que ça doit discuter dans les paddocks de Ferrari. Mais Carlos Sainz a remporté sa première victoire en Formule 1 devant Sergio Perez. Lewis Hamilton monte sur le podium. Charles Leclerc, 4e. Fernando Alonso, 5e. Lando Norris, 6e. Max Verstappen, étonnamment, 7e, mais on va en reparler de toute façon. Mick Schumacher obtient finalement ses premiers points en Formule 1 avec une belle 8e place, une belle bataille contre Max Verstappen. Sébastien Vettel, qui fêtait ses 35 ans aujourd'hui même, termine 9e, donc 2 points alors qu'il partait en avant-dernière ligne. Et Kevin Magnussen termine 10e. Nous avons perdu Alex Albon, Zhou Guanyu, George Russell, donc pas de top 5 pour Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Mais évidemment, la raison pour laquelle il y a autant d'abandons, en fait, surtout qu'il y en a eu 3, en fait, c'est qu'on a eu un gros accident au départ, alors qu'on a vu, c'était Gasly, Russell et Zhou, 3 de large. Les 3 se sont touchés et puis Russell a touché la voiture de Zhou qui a fait un tonneau et qui a rebondi en arrière de la barrière de pneus et s'est retrouvé entre la fin de la barrière de pneus puis la clôture qui séparait des gradins. Dieu merci, personne n'a été touché par les débris qui s'envolaient de la Alfa Romeo de Zhou, mais et encore mieux, on a vu Zhou sortir OK. On l'a vu après la course, il était complètement correct. Il ne semblait pas sonner ni avoir de blessure ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis dans un accident vraiment, mais vraiment terrifiant. Dieu merci, aucun problème. À noter aussi qu'Alex Albon, lui aussi va bien, mais a été transporté dans un hôpital à Coventry pour d'autres suivis supplémentaires. Mais en général, il est OK. Donc, Marc-André, ce départ vraiment a été terrifiant. Et puis, on a eu peur.
Vraiment, on a craint encore une fois pour un pilote. Heureusement, le halo pas juste se sembler, là, vraiment sauver la vie de Zhou, c'est certain. Là, à chaque fois que je revois la reprise, je me dis que sans le halo, encore une fois, peut-être qu'un pilote serait décédé, tu sais, à l'ère d'aujourd'hui. Donc, c'est assez extraordinaire le travail que ce petit arceau de sécurité fait. Et puis, c'est probablement dans avec celui de Grosjean, l'accident le plus spectaculaire qu'on a eu dans les dernières années. Je me rappelle aussi d'Alonso avec Gutiérrez en Australie, quand il avait tourné aussi et fait des tonneaux. Ouais, ça aussi, c'était assez exceptionnel, là, dans 2016-2017 peut-être.
Ouais.
C'était assez exceptionnel, mais ça vraiment là, de passer par-dessus les barrières et d'être un peu encastré. Là. Il y a une magnifique photo aussi qui circule en ce moment, bien magnifique. Dans les circonstances, là, parce que tout va bien, il est ressorti vainqueur, mais la voiture complètement encastrée, le pilote pris. Gros travail aussi de l'équipe de médicale qui a réussi à sortir Zou en toute sécurité, parce qu'il y avait aussi l'approche avec la colonne vertébrale qui était difficile. Donc, très bon travail de leur côté aussi.
Là. Oui. Oui, je suis d'accord. Vraiment un énorme bravo de la part des commissaires pour leur réaction très rapide, excusez-moi, très rapide, mais aussi de l'équipe médicale, de l'équipe d'extraction aussi. Donc, c'est un vraiment chapeau de leur part.
Et la réaction de Russell aussi, parce que d'après ce qu'on a l'air de comprendre, et j'ai hâte de regarder les commentaires, mais il semble que la Mercedes aurait pu repartir selon la réaction de Russell au tout début, mais lui qui a décidé de sortir de sa voiture et d'accourir vers Zou. Chapeau à lui aussi, parce que on a vu un gentleman dans cette action-là.
Ouais, exactement, parce que c'est une réaction normale, puis c'était absolument terrifiant là, de voir en tonneau, puis l'arceau de sécurité qui est complètement qui est complètement parti là, donc ce qui restait pour protéger la tête du pilote, c'était là à l'eau, donc vraiment, je pense qu'il n'y a plus de débat sur l'utilité de Halo. Ben, ça, depuis très, même très longtemps là, donc. Vraiment, vraiment, la Formule 1 a fait et la FIA ont fait du très bon travail pour assurer la sécurité des pilotes. Et évidemment, il est toujours en évolution constante, mais vraiment, je dois dire, aujourd'hui, on a encore une vie sauvée. Puis, je dirais aussi que ça, on l'a même vu en Formule 2 aussi avec entre Roy Nissany et Denis Hauger. Bien que c'était autant de la faute de Nissany, mais aussi celle parce qu'il y avait les fameuses saucisses jaunes qui a fait en sorte. Ça reste un combat de longue date, surtout avec Abby Eaton qui dit quand est-ce qu'on va les enlever. Ben, ça aussi, c'est quelque chose qui doit être revu et corrigé. Mais Dieu merci, personne n'a été puni pour cette action parce que je pense que c'était vraiment un incident de course. Donc, c'est une sacrée bonne nouvelle. On va passer, si tu veux bien, Marc-André, on va passer tout de suite à la victoire de Carlos Sainz. Ah, wow! D'abord,
enfin,
à son 151e Grand Prix en carrière, il a finalement sa première victoire, tant attendue. Mais disons que ça ne s'est pas fait sans difficulté et c'est le moment de revenir avec le fameux segment que j'aime tant. For Ferrari's sake! Parce que encore une fois, Ferrari a donné de l'urticaire à ses fans. Sérieusement, là, c'était...
Des sueurs froides, complètement.
Oh, vraiment, là. Mais oui.
Je ne comprends pas encore comment ça se fait qu'une écurie peut toujours se mettre dans le trouble comme ça. C'est des réactions en chaîne à chaque Grand Prix où tu termines un Grand Prix puis tu te dis qu'est-ce qui est arrivé dans la stratégie. C'est encore le cas. Tu sais, puis il y a encore des bas. Tu sais, ils ont... Moi, j'ai aimé l'attitude de Carlos Sainz durant tout le Grand Prix. Honnêtement, a dû affronter le fait qu'il était un petit peu moins rapide, mais pas si pire que ça. Il a dû laisser passer Leclerc. Ensuite, ils l'ont fait entrer pour fermer le clapet un peu des deux, pour pouvoir se reconcentrer un peu sur la course. Et puis, finalement, il renaît de ses cendres lors de la voiture de sécurité après l'abandon de Ocon. Et puis, avec des pneus frais, Leclerc avec ses vieux pneus, parce que... Est-ce qu'il... De ce qu'on dit, il était passé. En même temps, est-ce que ça aurait été si catastrophique de revenir au tour suivant, puis de... Je sais pas, tu sais, rendu là, ils ont pris une décision. Mais vraiment, encore de la malchance du côté de Leclerc. Il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Toujours désavantagé, on dirait, sans le vouloir. C'est dommage pour lui parce qu'il aurait pu grappiller des points importants aujourd'hui. Sûrement que Verstappen est sorti de sa voiture en disant « Ouf, on l'a échappé belle, celle-là. »
Ouais. Ouais, parce que vraiment, là, je dois dire, j'ai encore du mal. La dernière communication radio de l'ingénieur de Ferrari de Sainz à son pilote pour lui dire de lui donner un coussin à Sainz alors que Leclerc était en dur! En dur usé alors que Sainz était en...
Avec 16 tours, là.
Avec 16 tours! C'est absolument ridicule! Comment ils font pour penser à cette idée-là? Vraiment, c'est une écurie qui se bat pour le championnat. C'est pas pour rien que cette équipe n'a pas gagné le championnat depuis 2008. C'est parce qu'ils arrivent... Et même encore là, bon, ça, c'était plus des erreurs de pilotage en 2008. Mais Ferrari, depuis... Je sais pas, j'ai l'impression que depuis que Ross Brawn et Jean Todt sont partis... Et
ça
merci
ne fonctionne
à,
plus.
Ça ne fonctionne plus. Puis merci à Pierre Maillot qui avait dit ça en conversation privée. J'ai l'impression que Ferrari a brûlé le livre de stratégie parce que c'est rendu n'importe quoi. Puis encore là, on parle beaucoup de consignes d'équipe. On beaucoup de gens ramasser un Red Bull pour avoir utilisé des stratégies de consignes d'équipe aussitôt dans la saison. Mais dans le cas de Ferrari, c'était nécessaire parce que tu avais Lewis Hamilton qui poussait à fond derrière et avec un Charles Leclerc qui avait, même malgré un aileron avant endommagé, il était quand même assez rapide, mais il fallait quand même agir. C'est soit tu sacrifiais la course de Carlos Sainz ou tu le laissais aller, puis advienne que pourra. Mais Ferrari a carrément tout fait pour scraper la course de ces deux pilotes. Carrément.
Vraiment, parce qu'ils ont tellement perdu de temps entre le moment où ils disaient, on dirait qu'il n'y avait pas de communication entre les deux équipes, les deux équipes des pilotes. L'un disait à Carlos de pousser, alors que l'autre disait à Leclerc de pousser et de ne pas attaquer. Donc, c'était complètement invraisemblable. Ils ont perdu de nombreuses secondes qui auraient pu faire très mal parce que Lewis, finalement, a eu un petit problème au puits un arrêt au puits de 4,3 secondes. Habituellement, on est plus autour de 2,8. Donc, on peut vraiment se questionner. Si Mercedes n'avait pas fait cette petite erreur au puits, est-ce qu'il aurait été devant? Peut-être, ou ça aurait été très serré. Donc, vraiment, ils l'ont tout fait pour, encore une fois, mettre leur pilote dans le pétrin dans un moment vraiment très important parce que on entre dans un mois très crucial pour le championnat du monde. Les quatre prochaines courses vont être déterminantes à savoir si Ferrari va être capable de revenir un peu et tenter le terrain pour revenir dans le championnat du monde ou tout simplement les Red Bull vont s'envoler au championnat et ne regarderont plus derrière. Donc, c'était vraiment, vraiment une course importante, comme tout le reste. Mais ce mois-ci, le mois de juillet, avant la pause, va être très, très important.
Et puis, là, je viens de tomber sur une citation de Mattia Binotto qui dit « Il pensait qu'il n'y avait pas la place pour arrêter les deux pilotes. Leclerc avait les pneus les plus frais des deux et ils étaient les premiers et il pensait que les softs se dégraderaient plus, donc ils ont fait un choix. Donc, en arrêtant pas Carlos, ils auraient perdu de place. Mais en même temps, je me dis, Leclerc, lors de la deuxième présence de la voiture de sécurité après l'abandon d'Esteban Ocon, je crois que Leclerc était un peu dans la même situation que Lewis Hamilton était à Abu Dhabi 2021. Donc, il n'était pas en mesure, lorsque la voiture de sécurité a été déployée, de s'arrêter, si je ne me trompe pas.
Ben, tu as raison, mais en même temps, si tu es premier, ils se sont arrêtés, tu as une petite longueur d'avance, je pense qu'il fallait que tu réagisses. Oui. Parce que tu étais une victime qui ne pouvait pas faire rien. Tu étais vraiment une victime collatérale. Tu étais premier, mais tu savais très bien que tu allais perdre la tête. Tu sais, je pense que Leclerc a compris parce qu'on ne l'a pas vu agressif au micro ou rien. Donc, je pense qu'il comprenait qu'il était dans une situation où il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais quand même, je pense qu'il n'avait pas le choix de réagir tout de suite au tour suivant, mettre des pneus frais pour que tout le monde soit au pied d'égalité parce que là, ça devenait compliqué. Il y avait les pneus les moins frais, avec le moins de performance, c'était sûr que tu étais une pauvre victime. Donc, c'est dommage pour lui vraiment que tout ça ait été géré comme ça.
Ouais, et Dieu merci, et Dieu merci pour Ferrari. Max Verstappen n'était plus dans le coup à ce moment-ci parce que si Verstappen était avec Perez et Hamilton, je crois que Verstappen aurait pu les dépasser. Déjà que Perez s'est retrouvé goody bunning dans une position où personne ne s'y attendait, surtout avec un beau dépassement sur Lewis Hamilton à la relance. Alors, Ferrari n'avait pas le choix d'être parfait. Mais de dire à Carlos Sainz de se donner un coussin, c'était juste un harakiri au final parce que non seulement tu permettais soit à Perez ou à Hamilton de dépasser Sainz parce qu'ils avaient les mêmes usures de pneus, les pneus tendres. Mais après, ils étaient libres, ils allaient être libres d'attaquer Leclerc comme on l'a vu avec cette belle
exact.
Bataille.
Ah, en fait, si tu me le permets, mm-hmm. ça aurait pu être une stratégie gagnante s'il restait à peu près 3 ou 4 tours. Ça ouais. aurait pu être une très bonne stratégie parce que Leclerc aurait pu s'envoler, Sainz aurait pu contrôler l'hémorragie, du moins essayer de contenir Hamilton et Perez, et on sait que c'est vraiment pas facile parce que ce sont deux pilotes avec un talent extraordinaire. Et on l'a vu, là, c'était vraiment du grand pilotage des deux côtés.
Oh oui.
Donc, c'était... Si, là, il restait quoi? 12 tours au moment où la course est repartie, si je me trompe pas. C'était beaucoup. Là. Donc, tu peux pas demander à ton pilote de retenir les deux pilotes aussi longtemps sans le mettre dans l'embarras non plus. Donc, c'était vraiment une demande qui n'avait juste aucun sens avec la réalité de la course du moment.
Ouais, parce que à 10 tours, c'est merci, bonsoir. Perez et Hamilton sont partis. À 3-4 tours, peut-être j'aurais compris.
Exact.
Parce que si c'était de dire ben Carlos, vas-y, t'es plus rapide, et Charles était là complètement bloqué, ben là ça aurait été impossible, puis Leclerc aurait fini de toute façon quatrième dans les circonstances. Donc ouais, Ferrari a encore du travail à faire niveau stratégie, mais sinon Carlos Sainz n'a rien à se reprocher, il a été vraiment bon aujourd'hui là, à part peut-être le premier départ.
Oui, mais en même temps, il était complètement à la merci des pneus de Verstappen. Tu as vu le départ fumé, ils ont pratiquement eu le même temps de réaction. Ouais. 0.34 pour Verstappen, 0.34 pour Sainz, 0.35 pour Verstappen, mais c'est vraiment les pneus qui ont fait une différence à ce moment-là.
Oui, ouais, exactement. Et puis... vraiment, Sainz sur le premier tour, il a dormi un peu, mais sur le deuxième, il a été vraiment, vraiment féroce. Et puis, ce qui a amené en fait le contact entre non seulement Perez et Leclerc, mais aussi Leclerc-Verstappen. Donc, tout ça, le départ monstrueux de Sainz au deuxième sur le deuxième départ aura été vraiment capital pour la suite. Et puis bon, pour ce qui est de mais j'allais oublier en plus, Sainz a fait une erreur qui aurait pu lui coûter la victoire. Si c'est
vrai.
Avec sa sortie de piste, je pense que c'était à Chapel, si je me souviens bien, avant la droite du hangar. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que Sainz doit améliorer. Essayer de limiter les erreurs quand il est dans cette position. Mais vraiment, il a été... Ouais, il a été vraiment, vraiment, vraiment chanceux que Verstappen ait eu une crevaison parce que sans ça, là, ça aurait pu mal finir. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, si tu veux réagir là-dessus.
Oui, t'as. Ouh.
Oh. Oh, et là, je crois que. OK, là, je crois qu'on a un petit problème. Ah, et voilà. Marc-André est de retour.
Oui. Salut, salut.
Donc, oui, tu disais que, bon, Carlos Sainz, sans cette erreur, Sainz aurait pu perdre cette victoire. Oh, je crois qu'on a. Donc, je crois qu'on a perdu un peu Marc-André. Mais oui, pour compléter ce que je disais. Sainz a été vraiment chanceux dans cette malchance parce que si Verstappen n'avait pas eu la crevaison, Sainz aurait tout simplement perdu cette victoire et puis Verstappen serait encore et puis Red Bull aurait eu une 7e victoire consécutive. Alors vraiment pour la suite, il a fait ce qu'il pouvait. Alors vraiment chapeau à lui. Quant à Leclerc, ben là
OK.
Ça a été bon. Et Marc-André est de retour on va continuer si tu veux bien. Red Bull, Max Verstappen c'est dommage pour lui parce que je pense que moi je pense que pour faire suite à ce que je disais, Verstappen aurait bien pu gagner ce Grand Prix si ce n'était pas d'une crevaison. Est-ce que ce qui aurait été causé peut-être par un débris à Copse?
Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, si c'était une bonne voiture au moment où, en plus, il venait tout juste de dépasser Carlos Sainz, ça faisait peut-être 2 tours à peu près. Il était dans une bonne lancée et on sait, la Red Bull est très rapide. La Red Bull, quand elle tient et qu'elle n'a pas de problème, Ferrari ne peut rien contre elle. Mm-hmm. Donc, et déjà, le fait qu'il l'avait dépassé lors du premier départ, déjà là, ça mettait une grande pression sur Ferrari. Bon, on connaît la suite. Mm-hmm. Les drapeaux rouges. Ensuite, ils ont ramené les voitures. Carlos Sainz a fait un départ absolument fabuleux contre Verstappen. Mais tout ça fait en sorte que Verstappen avait, selon moi, la victoire au bout des doigts, avec plusieurs tours à faire. Mais c'est sûr que son problème l'a mis dans l'embarras. Ensuite, il est revenu sur la piste et sa voiture ne lui permettait tout juste ne lui permettait pas d'attaquer, alors que Verstappen, quand il n'est pas capable d'attaquer, est un peu impatient. On l'a vu. Et c'est normal, c'est un pilote qui aime aller vers l'avant puis aime chasser ses adversaires. Et là, il ne pouvait juste pas. Il restait, réussissait à garder la distance avec celui derrière, mais ne réussissait pas à gagner du terrain. Par contre, il termine quand même 7e. Ce sont des points tellement importants. Ce sont 7 points quand même accumulés aujourd'hui dans une course qui semblait vraiment s'en aller vers un gros zéro. Wow, quel travail d'un peu tout le monde dans ce paddock. À garder la concentration aussi. Et très hâte de parler de Perez aussi qui vient sauver les meubles chez Red Bull. Là, vraiment dans une course qui... On semblait sentir la course tout allait mal pour l'écurie.
Ah ben justement, on va parler de Checo parce que vraiment, il a été nommé officiellement pilote du jour et avec raison aussi. Et... Je dois dire, il était vraiment, mais vraiment, Il n'était plus dans le coup, mais il revenait graduellement. Et puis, vraiment, c'était... disons, comme en fait, puis ça vient de popper sur mon écran, comme le Lightning de Tampa Bay qui vient d'échanger Ryan McDonagh au Predator, c'était inattendu.
Oh, ouais. Mon Dieu. Ah, ouais.
Ouais, donc, c'était...
Mais oui, c'était inattendu. On l'a vu grappiller des positions tranquillement, pas vite. À un moment donné, on se disait, bon, OK, il est bien positionné à la sixième place, mais il restera sûrement pas là parce qu'il va devoir changer ses pneus. Et pouf, le cadeau du siècle arrive. Drapeau jaune, voiture de sécurité, ce qui lui permet de conserver sa place qui était... jusqu'à nouvel ordre intemporel, tu sais, qui tendait à pouvoir changer. Finalement, ce n'est pas le cas. Et ensuite, quelle relance. Vraiment, il avait vraiment faim de cette deuxième position. Je pense qu'il s'est rendu compte que la première position ne lui appartenait pas, mais quand même, il avait faim. Il voulait aider Red Bull dans tout ça. Et encore une fois, on voit que le coéquipier de Max Verstappen réussit à faire ce qu'on lui demande. Il a eu un petit problème avec sa voiture, est allé changer son aileron avant, est revenu sur la piste 15e dernier à ce moment-là en raison de tous les abandons, et a grappillé des positions et est monté jusqu'à la 6e place et finalement termine 2e dans une course qui, comme je disais tantôt, semblait être perdue pour Red Bull à un moment donné. Et c'est ça que tu veux d'un deuxième pilote comme Perez. Tu veux pas nécessairement, et en ce moment, il est sûrement encore deuxième en raison de cette deuxième position. Donc, c'est tellement important ce qu'il a fait aujourd'hui pour lui, mais aussi pour l'écurie. Et ça le garde un peu dans la course parce que, bon, Verstappen a perdu quelques points importants. J'ai pas regardé le classement tantôt, mais son nom est encore là. Puis s'il arrive quoi que ce soit avant que Verstappen durant la saison et qu'il accumule, par exemple, les abandons, ben Perez va être là pour sauver les meubles.
Oui, exactement. Et puis, c'est exactement ça qu'on veut aussi de Carlos Sainz. D'accord, il a gagné, mais c'est là où aussi on voit la différence entre Perez et Sainz. Et puis, moi, je trouve que Perez, année après année, il vieillit bien comme un bon vin, en fait. Et puis, je crois que... sa deuxième saison. Évidemment, avec une nouvelle voiture, nouvelle génération de voitures, mais sa deuxième saison avec Red Bull, on peut le dire, déjà est un succès. On arrive à la mi-saison et c'est déjà un succès pour l'écurie, ben pour Checo, parce qu'il est capable d'être là quand, par exemple, Verstappen n'est pas dans le coup. Par exemple, Monaco. Ça, c'est le meilleur exemple possible. Et aujourd'hui aussi, malgré le fait qu'il a été victime dans ce cas-ci de cet accrochage avec Leclerc et à la limite Verstappen aussi, il a été capable de revenir, de tenir le coup. Et je me souviens, l'année dernière aussi, Perez, dans ce même Grand Prix, lors du premier sprint, avait fait un tête-à-queue. Et connaissant la suite de l'histoire de ce week-end, ça aurait pu coûter cher à Red Bull de ne pas avoir Perez dans le coup. Donc là, on voit la différence cette année entre les deux, entre le Perez de 2021 et le Perez de cette année. Donc vraiment, je suis satisfait. Il semble mieux adapté. Et je crois que Red Bull a le meilleur... un meilleur deuxième pilote en Perez depuis, est-ce que je dirais Ricardo ou Mark Webber? C'est selon.
Ricardo, je pense.
Ouais.
Ricardo. Ah, c'est dur à évaluer parce que quand Ricardo était là avec Max, c'était pas en raison de Red Bull, mais bien Renault, que tout n'allait pas. Tu sais. Le moteur tenait tout simplement pas. Donc, on a un mauvais échantillon de tout ça. Mais oui, je pense que meilleur deuxième pilote depuis Ricardo. Là.
Ouais, exactement. Donc, je crois qu'on a vraiment, vraiment, vraiment eu... On a vraiment vu le meilleur de Checo aujourd'hui, là, mais surtout de très beaux dépassements à la fin. Et Lewis Hamilton...
Du culot.
Ah oui, du culot de la part de Checo. Et Lewis Hamilton, elle pourrait dire, pour la première fois cette saison, était dans le coup pour la victoire.
Ah ouais.
Ouais.
Pour la première fois, j'étais content.
Parce que, et je dois dire aussi, c'est la première fois cette saison que Lewis Hamilton a mené un Grand Prix. Hein.
Oui.
Donc, Hamilton avec les médias, était absolument rapide. Et c'est là où il a causé un peu un mot de tête, encore une fois, à Ferrari, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Hamilton enchaînait les meilleurs tours. Il était vraiment bon avec les médiums. Ensuite, est passé au temps, au dur. Mais finalement, je disais à quelqu'un sur Twitter, il va peut-être prendre les durs, mais finalement, c'était pas une bonne idée parce qu'il allait perdre énormément d'adhérence. Mais, et puis, je crois que la Mercedes ne semblait pas à l'aise avec les tendres à la relance, par contre. Mais, force est de constater que, avec les nouvelles mises à jour, on voit Mercedes vraiment dans le coup pour aller se battre, mais je ne les vois pas encore dans le portrait pour aller rivaliser contre les Ferrari, encore moins les Red Bull.
Ben écoute, ils sont dans le coup. Est-ce qu'ils vont réussir à garder cette position en se disant, OK, est-ce qu'on va être capable de pousser pour être capable de conserver? Je ne crois pas. On voit du bien dans cette voiture quand même. Là. En fin de semaine, on voyait qu'elle était stable, ne marchouinait pas beaucoup, offrait ce que Hamilton veut, c'est pouvoir rouler rapide et avoir une traction intéressante pour lui permettre de pousser ses pneus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. C'est un pilote capable de pousser ses pneus jusqu'à la limite pour se donner une chance de gagner. Et c'est très intéressant de voir le travail qu'il a pu faire avec cette voiture aujourd'hui. Je lui aurais souhaité cette victoire chez lui. Quel travail! Un podium, c'est sublime dans les circonstances avec... Une voiture qui s'améliore, jusqu'à quel point, j'ai hâte de voir. Mais si Ferrari continue à se tirer dans le pied comme ça, bon, là, ils ont la victoire, là. On s'entend, c'est quand même vraiment bien, là. Mais tout n'est pas joué, là. Vraiment, avec Ferrari, j'ai l'impression que tout n'est pas joué.
Ouais. Et c'est ça aussi le problème. C'est que j'ai vraiment l'impression que Mercedes est une voiture fiable. Bon, à part peut-être à part George Russell qui a été impliqué dans un... Il a été impliqué dans l'accident, mais à part ça, je trouve... Et puis, bon, c'est vrai qu'on a eu juste une séance d'essai qui a été roulée sur des conditions sèches. Donc, mais on voyait quand même que la Mercedes, la mise à jour qu'elle avait amenée, était bonne. Elle était bonne. Maintenant, c'était de savoir, maintenant, dans la course, qu'est-ce que ça allait donner. Mais, et là, on a eu, pas un échantillon, on a eu la totalité. Maintenant, il faut juste voir avec les gommes. Peut-être, est-ce que les gommes tentes, c'était juste une situation à cause de Silverstone? Et puis même, on a entendu Hamilton dire, est-ce que vous êtes sûr que c'était le bon pneu? Je dirais oui, mais il a juste été pas. Mais je crois qu'il n'était pas capable de mettre ses températures à la bonne température et ce que Perez a réussi à faire. Et sans ça, je crois que, admettons, dans la situation où Sainz obéissait à l'ordre de Ferrari de bloquer Checo et Hamilton, que Hamilton réussissait à passer directement Leclerc et Sainz, ben Hamilton aurait pu gagner ce Grand Prix, littéralement.
Mm-hmm. Vraiment. Ouais. Puis ça aurait été parfait dans les circonstances. Puis quelle foule aussi. Hein. J'ai rarement entendu une foule aussi excitée. Puis c'est normal parce qu'ils leur en ont donné pour leur argent. C'était du beau spectacle. Malheureusement, On voyait que sa voiture ne lui a pas permis de pousser ce qu'il aurait voulu jusqu'à la fin. Mais quand même, quel spectacle. Puis on est content d'avoir vu un Hamilton. Et j'imagine qu'il va avoir sorti cette voiture en se disant, OK, belle journée de travail. On peut se frotter les mains. Puis on s'en va vers le prochain Grand Prix en Autriche avec de la confiance quand même.
Oh, je crois qu'on a encore perdu Marc-André.
Et puis là.
Ah, OK, OK. Oui, désolé, c'est parce que ça a coupé encore. Donc, Mais oui, disons aussi que j'ai hâte de voir aussi pour la suite parce que là, ça va être en Autriche sur un circuit où, à part 2020, ils n'ont pas beaucoup eu du succès. Oui, ils ont gagné en 2014, 2015, 2016 et 2017, mais dans les dernières années, c'était et en 2020 aussi, les deux courses. Mais récemment, c'était pas non plus un grand succès. Mais là, cette année, avec une voiture qui semble plus évoluée, est-ce qu'ils vont pouvoir se battre contre un moteur Red Bull qui est plus évolué, un moteur Ferrari qui, de base, est super bon? Ça va être à suivre, mais sur un circuit assez rapide comme Silverstone, Hamilton a tenu le coup, là.
Oui, ils ont tenu le coup, puis j'espère vraiment qu'ils vont être capables de se battre, parce que ce serait le fun d'avoir une belle petite course à trois en Autriche, imagines-tu?
Oh, wow.
Dans le premier virage jusqu'au deuxième, tout serait là, même au troisième. Tu sais, ce qui est beau dans ce circuit-là, et je ne vais pas m'attarder longtemps, mais c'est que tu as trois longues lignes droites qui peuvent te permettre des dépassements et des magnifiques dépassements. Donc, une course à trois en Autriche, j'achète. Là.
Oui, exact, parce que je crois que ce serait magnifique. Mais ouais, je le souhaite, mais moi je crois plus en Hongrie, un circuit où c'est plus égal, où c'est pas vraiment c'est pas besoin du moteur, en fait c'est plus un Monaco sans rail, donc ça pourrait peut-être les avantager. On va passer maintenant à l'autre grosse surprise de ce Grand Prix. Ben c'est c'est Mick Schumacher, j'allais dire Max Verstappen, mais oui, Mick Schumacher s'est battu contre Max Verstappen dans les derniers tours. Mais Mick Schumacher, parti en dernier, je pense qu'il était parti 19e. Il finit 8e. Moi, je pense que si ce n'était pas de Perez, Mick Schumacher aurait aussi été nommé pilote du jour, parce que quelle performance il a donné, un peu sous les... il n'a pas beaucoup été montré à la télévision, mais il a fait le travail solide et il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas craqué sous la pression. Cette fois-ci, il l'a eu, puis ça, c'est vraiment solide de sa part. De beaux dépassements sur Nicolas Latifi, même sur Sébastien Vettel. Donc, ouais, vraiment chapeau à Mick d'avoir... finalement obtenu ses premiers points en Formule 1. Donc, ça, au moins, c'est une très bonne nouvelle pour la part du pilote allemand. Et pour la suite aussi.
Oui, vraiment. Et il va pouvoir se dire, mission accomplie. Il s'est battu contre Max Verstappen jusqu'à la fin. Il a donné des sueurs froides aux champions du monde, certainement, qui a même dû le pousser un peu à l'extérieur, là, comme Max sait si bien le faire dans les deux derniers virages. Mais ça prouve que l'agressivité de Schumacher était bonne et qu'il faisait du bon travail.
Ouais, exact. Et ça peut donner une confiance pour Mick aussi, parce que, et pour Haas aussi, oui. Parce que n'oublions pas, Kevin Magnussen a marqué un point. Donc, de voir que, bon, malgré la folie que ce Grand Prix de Grande-Bretagne a eu, Haas a été capable de se battre pour des positions et même pour des points aussi mineurs qu'elles soient. ça reste quand même des points importants pour l'écurie. Alors, je dois lui dire vraiment chapeau à Mick d'avoir si bien géré ce Grand Prix et même cette bataille contre Max Verstappen qui, ma foi, était juste magnifique. Donc,
ouais.
Vraiment, ça peut donner des quelque chose pour la suite. Et en plus, Haas solidifie maintenant sa huitième place et se retrouve à 8 points, à 7 points de Alpha Tauri, qui, parlons-en, Marc-André, a connu une course horrible.
Oui, juste avant, on a vu les commentaires de Charles Leclerc à sa sortie. Est-ce que tu les veux?
Oui, je ne les ai pas encore.
Il dit, j'aurais pu m'arrêter, on pouvait, mais moi, on m'a demandé de rester en piste, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, visiblement, Ferrari a pris la même décision que Mercedes a fait avec Hamilton à Abu Dhabi l'an dernier. Il continue en disant « Honnêtement, je suis très, très déçu, surtout pour la première partie de la course. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps derrière Carlos. Mais bon, on va regarder ça avec l'équipe à l'interne. Il y a des choses que nous devons discuter après cette course, c'est clair. » Et on l'a vu, si vous ne l'avez pas manqué lors de la diffusion, on a vu Binotto et Leclerc avoir une certaines confrontations là, à la sortie. Binotto avait l'air de dire à Charles Leclerc, calme-toi. Donc, j'ai très hâte de voir dans la prochaine semaine ce qui va arriver.
Oui, parce que, mais justement, pour revenir au propos que tu as de Charles Leclerc, uh-huh. Moi, je me demande, est-ce que ce n'était pas un. Est-ce que quand il dit ils ont hésité, est-ce que ça dépend de la position, est-ce qu'ils étaient à. Est-ce que l'intervention de la voiture de sécurité a été appelée au moment où il était avant la ligne des puits ou un peu plus avant? Parce que s'il était, par exemple, à la droite du hangar et que la voiture de sécurité avait été appelée, là, ça, c'est complètement Ferrari qui a encore fucké sa stratégie. Excusez-moi du terme. Si c'est... Hey. Oui, vas-y.
Vas-y. Non, mais écoute, moi, j'ai l'impression... J'avais l'impression durant la course qu'il aurait pu rentrer selon. Il faudrait regarder encore une fois le moment où la voiture de sécurité est sortie et où était Charles Leclerc. Mais d'après les commentaires, j'ai l'impression qu'il dit qu'il aurait pu s'arrêter. T'sais, il dit j'aurais pu m'arrêter, mais on m'a demandé de rester en piste. Fait que. Ça reste sur la fin encore. T'sais,
ouais.
C'est constamment la même chose. Des décisions en piste trop lentes. Et ça fait des années que je dis ça. Ça fait des années qu'on remarque que Ferrari n'est incapable de prendre des décisions en piste.
Ouais. Et plus ça change, plus c'est pareil.
Exactement.
Puis tu verras, Marc-André, je t'ai envoyé une photo de... Tu vois le pit wall de Ferrari remplacé par des têtes de clowns.
Ah, ça doit être bon.
C'est un classique. Donc, évidemment, c'est ce fameux mime où on remplace justement les ingénieurs de Ferrari dans le pit wall avec des têtes de clown. Donc,
très mérité, disons.
Très mérité, mais c'est un classique depuis des années. Ah, oh boy. Mais là, il faut qu'on parle de l'autre écurie italienne.
Oui.
Beaucoup plus décevante. Évidemment, beaucoup plus décevante. Alpha Tauri. Aïe, 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 ça... Déjà que leur saison ne va pas très bien à la base. Silverstone, c'était juste c'était juste la cerise sur le gâteau. Mais je dirais pas ça dans un air plutôt joyeux.
Non, effectivement, très déçu encore de cette écurie qui semblait si bien aller l'an dernier. Il avait l'air d'être sur une bonne lancée. Moi, je m'attendais à ce qu'ils suivent un peu Red Bull. Tu sais, c'est une écurie sœur, sont capables quand même de s'inspirer, disons, sans copier, comme certaines autres écuries dans le passé. Non, écoute, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette écurie-là. On parle de. Tu sais, Pierre Gasly qui commençait quand même bien en 11e position, avait réussi à se battre quand même pour Q3. Tsunoda qui partait quand même de loin, mais qui avait réussi à remonter un peu. Mais quelle déception encore. Deux pilotes qui se rendent dedans. Est-ce que Tsunoda a été pénalisé sur cette séquence, hein? Ou c'est pas pour celle-là?
Ben, il a reçu une pénalité de 5 secondes. Ouais. Oui. Oui.
On dirait qu'on ne sait pas si c'est pour l'incident avec Gasly ou un autre, mais du moins, je pense que dans cette circonstance, les deux pilotes étaient un peu coupables. Seul point positif, c'est que les deux voitures ont fait un peu de la nage synchronisée. Là. On a pu avoir de la petite or de leur côté quand ils se sont rentrés dedans. Là.
Ouais, puis autant Franz Tost que les dirigeants chez Red Bull devaient avoir déjà des sueurs froides parce qu'ils ont eu leurs problèmes avec. Surtout Christian Horner et Helmut Marko avaient déjà des problèmes avec l'équipe mère. Ajoute à ça celle de l'équipe sœur. C'était pas une bonne journée pour AlphaTauri et pour la famille Red Bull. Et en plus de ça, ben là, Gasly a été obligé d'abandonner alors qu'on lui avait brandi le drapeau noir avec pastille orange. Je suppose que c'est en lien avec l'accrochage avec Tsunoda. Donc, terrible. Terrible.
Vraiment.
Et on va terminer en parlant de nos Canadiens, en fait. Au final, ça a été mieux que l'on pensait, surtout pour Nicolas Latifi. Parce que oui, Latifi s'est retrouvé en Q3 pour la première fois de sa carrière. Il s'est qualifié 10e. Mais il a connu un super bon départ dans le premier et il est resté quand même dans le top 10 pendant une bonne partie de la course. Malheureusement, il termine 12e, mais ce n'est pas... D'ailleurs, c'est son meilleur résultat de la saison, mais il n'a pas à dérougir. C'était vraiment une très bonne performance de la part du Torontois dans les circonstances.
Oui, dans les circonstances, je pense que sa voiture ne lui permettait pas non plus de se battre nécessairement avec ceux devant, mais il a pu contenir l'hémorragie pendant plusieurs tours, restant 9e très longtemps. Ensuite, tout a catapulté un peu, mais c'était à prévoir. T'sais, avec la Williams, qui ne lui permet pas réellement de se battre, c'est dommage parce qu'il avait un bon rythme. Je le sentais en confiance en fin de semaine. Pour réussir ce qu'il a fait aussi en qualification sous la pluie, c'était vraiment très beau. Donc, il aurait pu quand même, j'aurais aimé ça le voir terminer dans les points pour se terminer la récompense, mais malheureusement, il n'a pas pu. Du côté de Lance Stroll, encore, quelle remontée. Oui. On parle d'une 11e position dans les circonstances, c'est vraiment pas, je pense qu'ils vont le prendre. Malgré tout, il a été gravement aidé par les 6 abandons. On va s'entendre que ça a eu du poids dans sa position, mais quand même, il a réussi à bien remonter comme il réussit habituellement à le faire.
Oui, et vraiment, Stroll, je pense qu'il était un de ceux qui avait eu des dommages, je crois, avec le premier départ. Je crois qu'il avait été touché à part Vettel, si je me souviens bien, mais où il a...
Je crois qu'il avait réussi à l'éviter, mais ouais. Il a reçu des débris. Là.
Ouais, mais quand même, c'était une belle remontée. Mais ça prouve aussi que la Aston Martin est... Avec les évolutions, fait beaucoup mieux. C'est juste, sous la pluie, c'est catastrophique. Mais, et on l'a vu à Montréal aussi, hein, il y a 2 semaines, les deux Aston Martin ont fait du très bon travail. Vettel s'est retrouvé 9e pour son anniversaire. Et Stroll a quand même bien fait. Il n'a pas fait d'erreur du tout. Alors, c'est quand même un positif à prendre pour Aston Martin dans les circonstances. Donc,
ouais.
Oui,
ouais, quoi, je pense qu'il va le prendre.
Oui, je pense qu'il va le prendre, effectivement. Donc, je vois, il y a vraiment... mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire pour Aston Martin. Sinon, mention honorable à Fernando Alonso, il faut qu'il termine 5e et qu'il aurait pu... Et qui s'est, à un moment donné, retrouvé dans cette belle bataille avec Perez, Hamilton et Leclerc. Mais Alonso, vraiment, et en plus, il est maintenant le pilote qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres de l'histoire de la Formule 1. Il lui en fallait Il lui fallait 44 tours, ce qui a été fait. Alors, vraiment, chapeau à Fernando Alonso qui fait très bien. Il a 40 ans, il va en avoir 41 cette année, mais comme on dit, l'âge est un nombre. Alors, vraiment, Alonso prouve qu'il en a encore dans le ventre.
Oh oui.
Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne, l'émission d'après-course. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. Évidemment, nous avons notre site bulletingp.com si vous voulez voir nos anciens épisodes de podcast, principalement notre balado hebdomadaire qui est disponible à chaque jeudi. D'ailleurs, on va en avoir un en enregistrement cette semaine. Et évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp en un mot. Et évidemment, vous abonner au groupe Facebook La Monoplace qui est où vous pouvez échanger de Formule 1 avec pas mal tout le monde. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Et merci à toi encore une fois, Abdou. Après un si bon Grand Prix, impossible de manquer cette revue, surtout que je pouvais être présent.
Présent, oui. Non, je suis vraiment content de t'avoir en plus, mais vraiment, c'est définitif. Pour moi, c'est personnellement top 10 des meilleures courses que j'ai regardées.
C'est certain. Je le mets très haut, là. Surtout avec Allemagne 2019 et 2020.
Ouais, Allemagne 2019, ouais. C'était une magnifique course. Donc on vous laisse là-dessus. Ben, d'ailleurs, ça peut nous donner une idée pour jeudi, en fait. Alors. On vous reviendra là-dessus, mais profitez de votre journée, peu importe où vous êtes. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve jeudi pour l'épisode numéro 114 du Bulletin GP. Salut tout le monde!